Notre invité nous vient du Canada, pays dans lequel il est aujourd'hui établi. D'abord initié par son père, c'est durant ses études au Collège de la Fraternité de Kikwit en RDC qu'il attrape la passion de la lecture et de l'écriture. C'est, paraît-il, en jouant dans une pièce de théâtre que lui viendra sa seconde vocation pour le droit, dont il va suivre les études universitaires et en faire sa profession. Il aime citer sa mère, à qui il doit les valeurs qui sont les siennes. La justice, mais aussi le dépassement de soi, l'abnégation, la loyauté. À travers son écriture, il interroge l'histoire et la mémoire du Congo et invite à la réflexion, en alliant la réalité à la fiction. Il ajoute à cela une narration dont il a le secret et qui fait de lui aujourd'hui l'un des plus grands romanciers du Congo. Il refuse cependant de limiter sa pensée. Il a un regard ouvert au monde avec des sources d'inspiration qui viennent de tous les continents. De Sonny Lansi Tabou à Milan Kundera, en passant par Valentin Yves Moudimbe ou encore Fyodor Dostoïevski. Le livre dont il fait la promotion dans le ventre du Congo aborde l'histoire coloniale entre la Belgique et le Congo. Notre invité se nomme Blaise Dalla.
Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Merci José et bienvenue dans Mikanda, une émission littéraire organisée par la diaspora congolaise, un partenariat entre Bokutani et Radio Beauté. Bonjour Blaise Dalla.
Bonjour Moko.
Alors voilà, à la lecture de vos romans, je rentre dans le vif du sujet. À la lecture de vos romans, on peut lire Le Juriste. On a la patte, la plume du juriste. Mais je trouve qu'on a aussi l'impression de lire un historien. Est-ce correct? Est-ce que j'ai en face de moi également un historien?
Historien, non, certainement pas. J'ai pas fait d'études d'histoire. Je n'ai pas la prétention de me mettre sous cette casquette. J'ai trop de respect pour les historiens et Dieu sait si les Congos en a de très bons que le reste de l'Afrique doit nous convoiter, nous envier. Et je suis par contre un passionné d'histoire. Donc ce que vous retrouvez en filigrane de mes textes me vient de cette passion que j'ai eue très très jeune et c'est qui me porte donc vers ce genre romanesque qui essaye de revisiter certains recoins de l'histoire pour essayer d'en chercher les enchevêtrements à l'ère contemporain et peut-être les résonances qui pourraient avoir traversé le temps pour continuer à hanter notre présent, comme on peut, j'imagine, le voir dans le tout dernier livre.
Tout à fait. Et donc, du coup, passionné d'histoire, pour chaque roman, c'est des recherches historiques. Comment ça se passe? Comment vous procédez?
Alors, le chose se passe de manière différente, d'un roman à l'autre, parce que je n'ai pas vraiment toujours un agenda très structuré, une manière d'opérer que j'enseignerais, par exemple, à des écrivains en herbe. Ça s'est fait par une conjonction de choses, de circonstances, la disponibilité du temps, le lieu où je me trouve au moment où j'ai besoin d'une ressource X, parfois aussi l'accessibilité à certaines archives, à certains documents. Je vais prendre l'exemple le plus récent pour Dans le ventre du Congo. La phase de la recherche a été cette fois-ci un peu plus soutenue, dans ce sens que le projet comme tel pour faire naître, pour accoucher de ces textes, m'est venu presque au moment où j'arrivais en Belgique. On parle de l'année 2004, début 2004. Moi, j'arrivais en septembre 2003, 2004. Mm-hmm. Je me rendais à Tervuren, juste à côté ici, pour une visite qui avait tout à la base d'être anodine. Et puis bon, là, on va peut-être y revenir, mais je vais tomber sur des éléments d'histoire patents qui étaient sous mon nez, à savoir le 7 tombes des Congolais qui sont encore inhumés et qui avaient été exposés lors d'expo de 1897 et dont je vais essayer de connaître l'histoire, comment ils étaient arrivés là, qu'est-ce qui s'était passé à cette époque, d'autant plus que de toutes mes études au Congo, y compris quand j'ai fait mon droit à l'UNIKIN, jamais je n'avais entendu parler de ces expositions et encore moins de la présence potentielle d'indigènes congolais, comme on les disait à l'époque. Et donc, va s'amorcer une phase de recherche qui va me ramener à l'époque contemporaine, en 1958, avec Expo 58. Mm-hmm. Et à partir de là, vraiment, je vais mettre à peu près, on va dire, à peu près 12 ans dans ces eaux-là, à consulter des archives, à lire tout ce qui avait été écrit sur les eaux humains, sur les villages coloniaux, les expositions coloniales en Grande-Bretagne, en France, en Belgique et ailleurs. Et c'est vraiment au bout d'une dizaine d'années, finalement, qu'ayant accumulé un certain nombre d'informations, dressé un certain nombre de fiches, dans l'entretemps, j'ai eu le temps d'écrire deux romans, bien entendu, que je suis arrivé à un moment où j'avais une somme, une masse critique historique suffisamment importante pour tenter maintenant de m'en détacher et revêtir la casquette du romancier pour en faire ce que j'avais envie d'en faire. Donc ça a été très long sur la durée.
Et vous avez consulté aussi des historiens. Est-ce que votre, peut-être même dans la relecture, est-ce qu'il y a eu des historiens qui sont intervenus pour justement corroborer, bon, il y a des archives qui ont été consultées, mais peut-être pour corroborer tout ce qui a été écrit.
Ça aurait pu se faire, parce qu'effectivement, pour ce genre de roman, pour ce genre de récit, quand on a le souci jusqu'à un certain point de l'exactitude historique, parce qu'il ne s'agit pas d'un essai sur l'histoire, il ne s'agit pas d'une monographie.
Non, sur mais la période c'est coloniale. Vraiment en toile de fond, et je pense que, et ça je pense qu'on va aussi en parler, je voulais savoir bon, à qui s'adressaient vos romans, les messages que vous voulez faire passer, mais vous parliez du fait que vous n'aviez jamais entendu parler lors de vos études à Kinshasa ou au Congo de manière générale de toute cette histoire, donc je pense que par votre biais, moi personnellement par exemple en tant que lectrice, j'apprends énormément sur l'histoire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent énormément sur l'histoire, et donc du coup sont enclins aussi à faire eux-mêmes leurs recherches pour s'assurer de la véracité de certaines choses, on s'étonne, et je pense que de ce côté-là, vous avez un rôle à jouer en tant que, pour mettre le pied à l'étrier finalement, de des personnes qui s'intéressent à l'histoire du Congo, l'histoire du Congo belge, plus particulièrement en ce qui concerne votre dernier roman.
Oui, vous avez absolument raison, le contexte historique, il est là, il est indéniable, il ouvre de portes, il permet d'avancer parfois seul au-delà de la fiction pour aller corroborer ou infirmer ce qui sous-tend le roman. Mais ce que j'allais dire, c'est que je m'accrochais à l'histoire jusqu'à un certain point parce que comme romancier, je peux tenir à l'exactitude historique quand ça sert le récit narratif.
Oui, bien sûr.
Parce que mon rôle, c'est vraiment créer des imaginaires, créer des choses qui fassent sens par rapport à un potentiel discours ou à des interrogations que j'amène sur ce sujet-là. Donc, de ce point de vue, j'aurais pu effectivement m'adresser à des historiens pour des choses qui peuvent être vérifiées, pour qu'il n'y ait pas d'anachronisme, par exemple. Mm-hmm. Mais je dis, je ne l'ai pas fait, pas parce que j'ai voulu me détourner d'historiens, mais en ce moment-là, je n'avais pas d'historien à ma portée, en quelque sorte. Mais j'avais néanmoins, parmi les gens qui m'ont lu en premier, une bonne amie qui dirige une ONG ici, et qui s'appelle CEC, ONG CEC, et Dominique Gilreau, qui, je ne suis pas certain qu'elle soit historienne elle-même, mais elle travaille beaucoup avec des historiens, beaucoup. Des historiens belges et congolais, ils ont mené beaucoup d'études, il y a même beaucoup de publications dans lesquelles elle a été impliquée personnellement. Elle fait partie de gens qui, sans être des historiens, m'ont lu avec un regard historique pour m'assurer que là où je tenais à l'exactitude historique, ben, on soit dans le vrai.
Oui.
Et ensuite, il y a l'autre volet, comme je le disais, comme romancier, je me suis aussi parfois détaché du fait historique pur parce que mon projet était d'amener la réflexion, de pousser l'imaginaire de mon lecteur dans des univers où je ne voulais pas des carcans du réel. Et donc c'est vraiment toute la magie du romancier qui s'intéresse à l'histoire, c'est vraiment de trouver cet équilibre assez subtil entre le vrai, le réel, l'historique, ce qui est archivé, ce qui peut être vérifié, et la part poétique romanesque au sens pur, au sens esthétique du terme, qui fait qu'il ne doit pas se figer dans le réel au risque de pondre une œuvre sèche qui ressemblerait à n'importe quelle monographie d'histoire. Le jeu subtil était là, j'espère au moins l'avoir réussi.
Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est l'imbrication entre cette subtilité d'arriver à mêler la fiction, quelque chose qui aurait en fait finalement vraiment pu être réel au regard de l'histoire. j'ai envie de dire que, pour ainsi dire, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas, si ces personnages ont existé ou pas. Ils auraient pu être là. Et ça, c'est vraiment très réussi.
Merci. Ils auraient pu être là. Parlant du factuel, justement, et de la liberté que le romancier peut se donner. Parlant du factuel, on peut revenir, par exemple, parlant d'Expo 58, à ces Congolais, à ces indigènes qui ont été les figurants de ce fameux village congolais qui a fini par être décrié et qu'on a fini par déserter. En réalité, il y en avait, selon mes recherches, 117. Donc, si on consulte les archives, on se rend compte qu'au pied de l'atomium, il n'y avait pas 11 nègres, 11 Congolais, 11 indigènes, comme dans mon livre, il y en avait 117. Je fais le parti, je pris le parti comme romancier de n'en retenir que 11.
Oui, c'est ça.
Donc, ça, c'est par exemple une liberté que le romancier se donne. Et alors, que, si on fait une recherche, qu'on voit qu'il y en avait plus, on voit certainement pas maintenir rigueur.
Voilà,
donc c'est un point de détail.
D'où aussi le fait que probablement vous devez tenir au fait de dire que vous n'êtes pas historien, que vous avez justement, sur base de faits historiques, oui, mais avec des libertés.
Avec des libertés que je me donne. Donc moi, j'essaie de construire quelque chose qui fasse sens et qui convoque ce passé douloureux, déchirant.
Et par rapport à ce passé douloureux, tout à l'heure, je parlais du lectorat. Comment est-ce que, par exemple, la diaspora, je ne sais pas si vous avez les premiers échos, comment la diaspora a reçu votre livre? Comment le Congo a reçu votre livre? Vous le disiez vous-même, on est très peu au courant de ces choses-là, je ne savais pas. Donc, est-ce que c'est des surprises? Est-ce que les gens ont tendance à ne pas croire, à faire des recherches? Comment est-ce que vos livres, de manière générale, sont accueillis?
Je ne peux évidemment témoigner que de retours que je reçois comme romancier. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est quand même les réseaux sociaux, donc les gens peuvent spontanément venir me dire ce qu'ils ont pensé d'un texte qu'ils ont lu. Et puis, moi, j'aurais aimé, dans un monde idéal, qu'il y ait une meilleure circulation de ce livre. Donc là, je prendrais vraiment correctement la mesure de quel genre d'écho un livre comme celui-ci ou même les précédents peuvent avoir au Congo. Il se trouve que même dans une ville comme Kinshasa, c'est un livre qui a très peu pénétré notre électorat. Et ça, c'est quelque chose qui me fait mal, quelque part, parce qu'on a beau dire, il y a évidemment une dimension très universelle sur la question coloniale, la question de zoos humains qu'on sort, on serait un Innu ou un autochtone du nord du Canada. Il y a eu des autochtones qui ont été amenés en Europe au 19e, au 20e siècle pour des expositions analogues, ça leur parlera. Il reste que les premiers concernés, au moment où moi je suis devant mon clavier pour cette histoire, ce sont les Belges et les Congolais. Autant ce livre va être distribué et circuler facilement en Belgique et les Belges vont le lire. Et on a vu tout à l'heure, José nous montrait un article de Colette Brackmann dans Le Soir qui est sorti à peine quelques jours après la sortie du bouquin. Mais autant, du côté du Congo, il y a très très peu de choses qui se disent, en tout cas par les canaux, les plus grands canaux de communication ou d'information, parce que les livres ne pénètrent pas ces marchés, la circulation est difficile, les librairies sont très très rares, ça c'est un fait, ça vaudrait une autre émission. Au-delà de ça, pour revenir à ce que je disais au début, il y a des gens, des lecteurs isolés ou des groupes de lecteurs à Kinshasa, des petites associations, de petits regroupements de gens qui le lisent collectivement ou individuellement et qui parfois remontent l'information, soit à travers un blog, un article par-ci par-là, sur un mur, sur Facebook, et qui parlent du livre, de ce que ça a suscité chez eux, des informations qu'ils ont découvertes. Et globalement, ce que j'ai retenu, c'est à la fois une grande satisfaction pour eux, ceux qui m'ont parlé, de voir qu'un Congolais ou un Canadien d'origine congolaise, c'est selon, s'est emparé de cette histoire, a donné une voix à ces personnes dont on ne savait pas grand-chose. Encore fallait-il connaître tout simplement leur existence. Et puis d'autre part, évidemment, les questions sous-jacentes que cela a pu faire germer dans leur esprit sur des enjeux qui sont dans les livres, que l'on parle de la restitution d'œuvres d'art, que l'on parle de la présence dans l'espace.
Justement, est-ce qu'il y a des messages que vous voulez repasser, par exemple, par rapport à la restitution? Est-ce que vous prenez position d'une certaine manière? Quel est le...
Mais je pense que si je prenais position, vous l'auriez vu dans le roman. Non, je ne prends
pas
position.
Non, parce que vous ouvrez le fait de poser la question ou de l'aborder pourrait... voilà, vous ne prenez pas position, effectivement, mais c'est déjà, je dirais, un petit pavé dans la mare...
J'aime bien cette expression parce que comme romancier, pour ce genre de questions, quand je l'amène sous le biais de la fiction, c'est davantage pour poser des questions, nourrir un débat, que de venir avec une sorte de vérité infuse qui serait mienne et qui pourrait s'imposer. Je pense que le roman, pour moi, c'est le lieu de la rencontre.
Ouais.
C'est le lieu de la rencontre, le lieu de l'échange, le lieu de la discussion. Donc, quand j'amène ces questions sous la forme que j'amène, en permettant aux gens de rentrer dans la tête, dans le vécu, dans le ressenti de mes personnages, que ce soit le roi des Bakuba, la princesse T'Challa, le personnage, je ne sais pas moi, de René Commère, le Belge, ou autre, ben je veux donner place à ce que toutes les résonances de ce voix puissent trouver écho dans la société et que de tout ce choc-là puisse se dégager ce qui pourrait être la vérité de notre temps et les exigences vers lesquelles nous devrions tendre pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent devant nous. Il n'y a vraiment pas de position, il n'y a pas de militantisme, il y a une démarche totalement assumée et très subjective de susciter des questions qui puissent nourrir la réflexion et le débat. Après, les gens peuvent s'en emparer pour prendre position, utiliser un point de vue plutôt qu'un autre, parce que là, en l'occurrence, dans ce roman, comme vous l'avez vu, chaque point de vue est défendu, souvent de manière âpre par chacun des protagonistes.
Par chacun, tout à fait. On a tous les points, on a tous les points de vue.
Donc c'est vraiment au lecteur de s'en emparer et puis de trouver au fond d'eux-mêmes ce qui leur parle le plus et peut-être des arguments qui leur parlent davantage et d'avancer dans une réflexion et dans une discussion commune.
Vous êtes né au Congo, vous avez étudié au Congo, vous avez fait une spécialisation ici en Belgique. Pourquoi le départ vers le Canada? Il y a une raison particulière?
C'est une combinaison de circonstances, de raisons, sans doute. J'étais au bout de mes études de droit ici en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Je suis resté 4 ans en Belgique en tout. C'était une période assez confuse au Congo. On sortait d'élections chaotiques qui s'étaient soldées par, pour ceux qui s'en souviendront, ces batailles rangées dans les rues des Kinshasa, centre-ville, entre les troupes de Jean-Pierre Bemba à l'époque et l'armée de Joseph Kabila. C'était plein d'incertitudes. Et en Belgique, vous aviez beau avoir un diplôme de troisième cycle en droit, ce n'est pas nécessairement ce qui était recherché sur le marché de l'emploi. Donc, c'était assez compliqué aussi. Et je tiraillais entre l'appel du pied du pays, hein, de la mère patrie, comme on dit, et les contingences d'une Europe qui, soudain, laissait place à des discours quand même de droite et d'extrême droite hostiles à l'immigration, à l'accueil des migrants, à la présence... des étrangers, des Africains, tout ça. Donc je t'ai pris un peu dans cet étau, ne sachant pas trop ce que j'allais faire des années qui venaient. Et le Canada a toujours été un pays qui m'a fasciné par déjà sa politique multiculturaliste, qui peut être critiquée pour des raisons que chacun peut lui trouver, mais qui, moi, m'a donné un peu une sorte de gage d'assurance en termes d'intégration, comparativement à l'Europe.
J'ai vu, en tout cas, au niveau des articles, etc., vous êtes bien accueilli, en tout cas, en tant qu'auteur au Canada, et bien supporté.
Oui, je n'ai pas à me plaindre comme auteur qui est aujourd'hui la nationalité canadienne. Je serais très ingrat de ne pas reconnaître que ma création a beaucoup bénéficié des politiques culturelles canadiennes.
Plus qu'au Congo, finalement, pour l'instant, en tout cas.
J'ai bénéficié d'un soutien constant dans mes projets de création. Je suis aussi en Europe en ce moment parce que je mène des recherches pour un livre à venir grâce à un financement canadien.
Okay.
Et donc, ce n'est pas que de mots. C'est quand même une politique qui permet à des créateurs comme moi, comme d'autres, de pouvoir laisser place à l'imagination et nourrir le débat des sociétés par nos écrits, par nos réflexions et par ce qui nous empêche de dormir la nuit.
Je voulais juste savoir, au niveau de vos influences littéraires, quels sont les auteurs que vous avez lus, quels sont les auteurs qui vous ont inspiré?
Alors, je dois dire que je suis vraiment un fervent lecteur de lettres congolaises, donc j'en lis énormément. Vous avez raison de préciser que très tôt, Moudimbe, notamment avec le Bel Immonde, un roman que beaucoup connaissent. Très tôt, Modimbe et Sonny Labutansi ont été, dans les deux Congos, les deux écrivains qui m'ont le plus marqué et qui vont m'influencer assez longtemps. Et puis d'autres se sont ajoutés hein, d'un peu partout. Aujourd'hui, je lis beaucoup de Congolais et pour moi, en fait, que ce soit des auteurs congolais ou d'ailleurs, chaque auteur que j'ai lu m'apporte toujours quelque chose. C'est difficile de savoir quoi exactement dans l'immédiat, mais je crois que l'écrivain que je suis s'est nourri à des sources multiples et les influences de uns se confondent avec celles des autres. Voilà, donc tout ça tisse la toile à travers laquelle j'amène les influences dans ma propre écriture. Je disais que je lisais beaucoup, donc là je vois beaucoup d'auteurs qui me sont chers, Richard Alimoutou, vieux Jean, comme nous l'appelons, Jean Bofane, et j'en oublie, hein, je vois Tina Salama. Donc je lis beaucoup et tous m'apportent quelque chose, mais puisque vous vouliez que je cite un livre que j'ai lu récemment et que je recommanderais, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, c'est le dernier Fiston Mwanza Mujila, La danse du vilain, qui est un roman superbe, qui a cette patte, cette touche particulière de Fiston qu'on avait déjà retrouvé dans Tram 83. Donc ça, c'est un texte vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et qui se hisse dans ce qui s'est fait de plus beau en termes de littérature en langue française. Mm-hmm. Hein, je veux dire, toute nation confondue, ces textes-là appartient au plus beau texte qu'on peut trouver en littérature de langue française. C'est pas le seul, il y aurait beaucoup d'autres textes que je pourrais citer. Je vois Sinzo Anza qui nous a produit Généalogie d'une banalité, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti il y a un temps déjà, qui est un poète et un dramaturge, un romancier de grand talent. J'en oublierai d'autres et ça ferait des jaloux.
Oui, on va mais citer tout le monde.
Voilà, donc en gros, je lis beaucoup d'auteurs congolais, les connus, les moins connus. J'en lis beaucoup quand j'ai la chance, parfois j'en parle. Mais les influences, encore une fois, viennent de sources très très diverses. Et il n'y a pas un seul auteur congolais ou autre que j'ai lu qui ne m'ait pas laissé comme auteur un fond de lui et qui ne m'ait pas, d'une manière ou d'une autre, inspiré ou poussé à me tourner vers des horizons vers lesquels peut-être je ne me serais jamais intéressé.
Parfait. Alors, le petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent. Je propose éventuellement en lingala, mais ça peut aussi être en français ou en anglais. Juste un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent.
Kongo Izara a misikité. Donc, Kongo Izara n'a pas talent et belé. Izara n'a littérature. Izara n'a pas sport. N'a pas ni. Donc, Moutouna Moutou Isika Azali. Donc, il faut. Tiens, le beau, quoi. Alors, surtout, ça n'est tout à l'heure beau côté à Mikanda pour Hermo, Boépe, Westaf, parce que là, il n'est pas avec la vision d'esprit. Donc, on a ce qu'on a là-bas comme quinoa. Mais, on a mystiquement Boépe, Fourmi, donc Tozongi Moissima, et puis Sukoyo, Moussale Monanakwa. Et c'est un honneur pour la patrie. Donc, il ne faut pas reculer, il faut prendre ce qu'on peut faire et puis avancer ensemble.
Merci beaucoup, Blenzala. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt.